Bonjour Bernadette.
Bonjour Sandrine, bonjour chers auditeurs. Joie de vous retrouver pour cette deuxième partie, comme vient de vous le dire Sandrine, sur le père Nicolas Cuyters, qui a été martyrisé au Liban en 1985, donc un contemporain. Alors pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, bien je rappellerai que Nicolas Cuyters est un prêtre hollandais, que depuis tout petit, il voulait être peintre, il aimait beaucoup dessiner, il a d'ailleurs fait ses études dans ce sens, il a même été professeur de dessin, mais le Seigneur l'a appelé à être non seulement prêtre jésuite, mais aussi missionnaire au Liban. Et auprès de petits villages maronites, donc catholiques orientaux, pauvres et isolés du nord de la Bekaa, cette région dont la ville la plus importante est Baalbek et qui se trouve donc à l'est du Liban et à la frontière avec la Syrie. Alors Nicolas Cuyters a été ordonné prêtre en 1973 et au cours d'une exposition de ses dessins à Beyrouth cette même année, un prêtre lui avait demandé comment il avait perçu l'appel au sacerdoce. Et le père Nicolas lui avait répondu, je le cite, « C'est un peu comme si j'avais entendu à ma manière la parole du Christ à Pierre. Désormais, ce sont des hommes vivants que tu peindras. » Nous avons vu au cours de l'émission précédente que ce prêtre, toujours souriant, droit, ferme, mais discret, après avoir surmonté des épreuves et bien des difficultés au début de son ministère, avait gagné la confiance des villageois et comment, dans une période plus que troublée, puisque la guerre civile avait commencé au Liban en 1975, alors comment il s'était engagé aux côtés de ses paroissiens pour transformer leur cadre de vie, pour leur donner un avenir sur leur terre. Le village était devenu un immense chantier. Tout ça pour freiner l'exode auquel les musulmans poussaient les chrétiens, car le père Nicolas était persuadé qu'il fallait maintenir cette présence chrétienne en milieu musulman. Et nous étions arrivés en 1980, l'année qui clôturait avec réussite hein, tout ce temps de construction, d'aménagement, et ce, malgré donc cette guerre qui faisait rage au Liban. Mais vous vous en doutez, le Christ n'a pas appelé Nicolas Cuyters au sacerdoce pour être ingénieur, architecte, chef de chantier ou que sais-je, hein, mais pour être pasteur de ses brebis, pour être le père qui éduque et fait grandir dans la foi et dans la charité chacun des enfants qui lui sont confiés. Et d'ailleurs, si tous ces chantiers ont été des réussites, c'est qu'au contact de sa vie, une vie de prière, ou bien en écoutant son enseignement, les cœurs autrefois fermés et pleins de rancœur, animés de sentiments de vengeance, tous ces cœurs se sont peu à peu ouverts pour apprendre à pardonner et à travailler ensemble. Une petite phrase que le père Nicolas répétait sans cesse, justement, pour inviter ses paroissiens à se dépasser, « Il faut aller de l'avant, l'amour est plus fort que la haine. » L'amour est plus fort que la haine. Et où ce message d'amour est-il le plus fort et le plus manifeste? Et bien sûr, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. Alors, pour faire goûter à tous cet amour du Christ, le père Nicolas, dès 1980 et ce jusqu'en 85, l'année de son martyre, va entraîner chaque vendredi saint tous les habitants de Barca dans un chemin de croix fait de tableaux vivants, en costume, qu'il met en scène dans le village et où chacun, jeune et moins jeune, participe dans la joie et la ferveur. Ce chemin de croix devient le temps fort dans l'année, un vrai témoignage de foi, et d'année en année, il attire de plus en plus de visiteurs des villages alentours. Pourtant, la guerre civile continue à faire rage et le père Nicolas Cluyters n'est pas insensible à cette réalité qui est de plus en plus menaçante dans la région. Les occupations militaires et miliciennes sont nombreuses. L'armée syrienne vient d'assiéger la ville de Zalée, qui est la capitale de la Beka. Et des soldats syriens se sont même installés dans le village de Barka, où il est curé. Tout ceci fait que des incidents éclatent et sèment la panique dans la population. Et certains, pour ne pas dire beaucoup, veulent quitter les lieux et se réfugier à Beyrouth. Le père Nicolas, bien sûr, est inquiet. Et ce d'autant plus qu'en juin 82, c'est au tour d'Israël d'intervenir dans le conflit avec des combats aériens et un déploiement de l'artillerie au sol dans la région. Et en 10 jours, 4 jeunes de la région vont justement être victimes de balles perdues ou d'obus qui sont tombés. Le père Nicolas Cluyters souligne « ça fait lourd, la mort s'apaise, on pleure, on console ». Et cette année-là, Noël 82, est bien morose. Beaucoup de jeunes sont partis à Beyrouth. Mais le père refuse de baisser les bras. En janvier, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il va rendre visite à ses paroissiens, à ses brebis réfugiés à Beyrouth, qu'il nomme, enfin, qu'il appelle comme le village de ses réfugiés, tellement il y en a qui sont partis. Il continue également à s'investir dans ses projets sur place. Il va faire construire une nouvelle église qui se nommera Saint-Charbel, qui va être construite à 10 km de Barka dans la montagne, malgré des bombardements syriens. Des canaux d'irrigation voient le jour également pour fertiliser de nouveaux terrains. Il veut vraiment, vraiment maintenir la présence des chrétiens sur place. Heureusement, pour le soutenir, une fois par semaine, il continue à se rendre au monastère jésuite de Tanaïl. Là, il peut se ressourcer au milieu de ses frères. Il peut prendre du recul par rapport à ce qu'il vit, parce que sa mission est vraiment lourde à porter. Il sait que chacun des paroissiens compte sur lui, des paroissiens apeurés qui vivent de plus en plus barricadés dans leur maison, qui hésitent à sortir. Et c'est lui le seul qui sert de lien avec l'extérieur. Et pourtant, chaque fois qu'il prend sa voiture, il risque sa vie. Alors, si les chrétiens, eux, sont un petit peu timorés, les musulmans, par contre, n'hésitent pas à venir se faire soigner à Barka, dans le nouveau dispensaire que le père a fait construire et où il accueille sans discrimination tous ceux qui en ont besoin. C'est sa manière à lui de lutter contre cette guerre, de ramener la paix, la confiance, le dialogue entre les différentes communautés. Mais malgré tout, le père Nicolas Cluyters commence à avoir des doutes. Il se demande si cela vaut vraiment la peine de travailler à la construction de l'avenir dans pareil contexte. Ces villages maronites, entourés de chiites, occupé par l'armée syrienne, avec une jeunesse qui prend le large. Il reste vraiment songeur. Il a l'impression, en plus, d'être le seul à se battre. Alors, pour discerner la volonté de Dieu, eh bien, il décide de suivre une retraite. Une retraite où il va vivre une grande agitation, une vraie tempête intérieure, un peu à la manière de grands saints. Et où dans cette tempête, il écrit que le Seigneur le travaille comme un forgeron, hein, c'est rude, et lui fait comprendre qu'il a permis toutes ces épreuves pour le purifier et pour le rendre plus fort pour affronter l'avenir, qu'il ne lui promet pas facile, mais où il lui rappelle sa promesse d'être toujours là avec lui. Et si le père Nicolas, avec le Seigneur et avec persévérance, le suit, eh bien, ils arriveront en paix à l'autre rive et ensuite ils iront plus loin. Alors, éclairé par ces paroles, le 22 septembre 84, Nicolas Cluyters revient au Liban, reprend sa mission avec confiance et courage. Pourtant, peu de temps après, en octobre, il retrouve, avec une certaine tristesse, un problème contre lequel il s'est déjà bien battu. C'est la récolte du haschich. Cette culture du haschich, certains de ses paroissiens se sont mis à acheter des terres pour cultiver à plus grande échelle ce chanvre indien, qui est beaucoup plus rentable que les revenus de la terre. On imagine bien sa déception. De plus, les événements ne sont pas là pour le rassurer. Des prêtres, maintenant, sont pris en otage. Ils sont enlevés, puis relâchés. Il y a une ambiance d'insécurité qui règne partout. Lui n'est pas inquiet pour sa propre personne, mais toute cette violence l'interroge profondément. Alors, heureusement, tout n'est pas négatif. Cet automne-là, les trois religieuses des 5 heures qu'il avait vraiment réclamées à corps et à cri pendant des mois et des mois et qui étaient venues pour le seconder à Barka, eh bien, ces religieuses commencent à tisser des liens avec la population, commencent à prendre leur marque dans les villages aux environs de Barka, et elles se sont même fait appeler les sœurs de Barka, ce qui vraiment les ancre dans ce territoire et qui rassure Nicolas. Elles seront là, il en est sûr, pour prendre la relève. Et puis, début novembre, on est en 84, a lieu la grande fête annuelle du village et cette année, elle marque les 10 ans de présence du père dans la région. Une belle fête en présence de l'évêque Monseigneur Roland Aboujaoudé, qui vient bénir tous les chantiers. Et le père Nicolas ne peut s'empêcher de mesurer le chemin parcouru. Que de changements dans cette région, autrefois pauvre, isolée et même oubliée de l'Église. Eh bien, aujourd'hui, l'évêque est présent. Pourtant, le père va être à nouveau pris de doute. Il a l'impression qu'il a fait son temps. Qu'il a fait son temps au moins à Barka. Il a donné tout ce qu'il pouvait donner. Alors, il se demande, est-ce qu'il faut partir? Est-ce qu'il faut rester? Est-ce qu'il faut aller servir ailleurs? Il a la tentation de partir au Soudan. Pour trouver sa réponse, eh bien, il a recours une nouvelle fois à la retraite. Il part cette fois 2 mois à Rome, suivent une retraite spirituelle selon l'esprit de Saint Ignace de Loyola. Et au cours de cette retraite, il reçoit sa réponse en regardant le Christ cloué sur la croix. Que lui reste-t-il à donner sinon sa vie? La réponse est claire et il va écrire: je dois être l'engrais de la terre délaissée du nord de la Bekaa. Je dois être l'engrais de la terre délaissée du nord de la Bekaa. C'est clair. Le 1er mars 85, le voilà donc de nouveau à Barka, pour le plus grand bonheur, on le suppose, de ses paroissiens, qui lui réservent un accueil triomphal. C'est vraiment son entrée à Jérusalem avant sa semaine sainte. Les jeunes le portent sur leurs épaules, les femmes poussent leurs cris de joie, jettent des fleurs sur son passage. Mais le 14 mars, donc 2 semaines plus tard, après la messe du matin qu'il vient de célébrer dans le petit village de Hermel chez les religieuses qui s'occupent de l'hôpital gouvernemental, il prend sa voiture pour rejoindre son village de Barka, où il a un rendez-vous extrêmement important avec un membre de l'Ordre de Malte qui aide financièrement plusieurs de ses projets. En chemin, comme c'est sur son passage, il veut quand même prendre des nouvelles d'un prêtre qui avait été enlevé précédemment. Il va prendre du retard et, pour ne pas manquer son rendez-vous, pour arriver bien à l'heure, il emprunte un raccourci que lui-même déconseillait à tous ceux qui voulaient venir le voir. Et ce raccourci va lui être fatal. Il disparaît à tout jamais. Les recherches ne donnent rien. Des rumeurs en tout genre vont circuler. notamment celle de sa libération prochaine le 1er avril. Bien sûr, tout est faux. Et si le 1er avril, on retrouve son corps, mais c'est un corps bien amoché, retrouvé au fond d'un gouffre, et ce grâce à des bergers qui, voyant tourner une nuée de corbeaux au-dessus de ce gouffre, avaient donné l'alerte. Selon le légiste, sa mort remontait au 14 mars, le jour de sa disparition. Et selon le légiste encore, n'avait jamais vu un corps aussi meurtri, un corps dans un pareil état. Des balles dans la cuisse et le genou droit, un haut de poitrine noir, il aurait été empalé puis pendu. Ces obsèques vont avoir lieu au monastère de Tanaïl le 3 avril. La messe est célébrée en blanc, signe de la résurrection, dans un profond recueillement. Elle est présidée par Mgr Roland Abou Jaoudé et cet évêque, dans son oraison funèbre, a ces mots. Je vous les cite. C'était le meilleur de mes prêtres. Il a marché sur les pas du Maître Jésus-Christ jusqu'au suprême témoignage qui a couronné son œuvre humaine. Par la suite, dans les jours qui ont suivi, d'autres évêques aussi ont rendu un beau témoignage au Père Nicolas Cluters. Je vous cite celui de l'évêque de Zalé, la capitale de la BKA. L'évêque connaissait personnellement le Père Nicolas. Voilà ce que dit cet évêque. « Je considère le Père Nicolas comme un nouveau et grand martyr du christianisme. Il a été tué simplement parce qu'il était prêtre, prêchant la charité et le Christ. Sa mort et son meurtre n'effraieront personne. Au contraire, ils donneront un courage nouveau pour tenir bon et continuer notre mission au service de l'homme. » Et c'est ce qui s'est passé. Le Père Nicolas est vraiment devenu l'engrais de la BKA. De beaux fruits ont mûri, même si ce n'était pas gagné d'avance, parce qu'en effet, la supérieure des sœurs de Barca, bouleversée par le meurtre du Père, a tout de suite demandé son transfert, n'a pas pu continuer à assurer sa mission dans le village, et le village est resté aussi sans curé pendant 10 ans. Alors, la supérieure a vite été remplacée et cette petite communauté, qui est restée de 3 religieuses, a assuré la continuité et a développé la mission du Père dans tous les domaines, catéchisme, soins médicaux, éducation, œuvre sociale. Quant au prêtre, au bout de 10 ans, 95, c'est un prêtre issu d'une famille de la Barca qui a été nommé curé. Mais les paroissiens qui n'ont pas attendu 10 ans et ne se sont pas morfondus pendant 10 ans, ils ne se sont pas laissés abattre, ils n'ont pas non plus cherché à venger leur père, à se faire justice, comme ils l'auraient fait peut-être avant d'avoir connu le père Nicolas. Ils ont su préserver la paix et continuer à travailler ensemble pour faire de Barca un modèle de développement économique et social pour la région. La guerre civile a cessé en 90. Les jeunes sont revenus avec leurs diplômes. Le petit village oublié de l'Église est maintenant devenu un diocèse, Baalbek Deir el-Ahmar, le nom d'un autre petit village autour de Barca. Des pèlerins viennent se recueillir sur la tombe du Père Nicolas. Le chemin de croix a continué. Des mouvements de jeunes sont nés et se sont fait appeler la famille du Père Nicolas. Et aussi, c'était le vœu le plus cher du Père Nicolas, 2 vocations féminines ont éclos dans la congrégation des sœurs de Barca. Voilà, alors un aperçu de ce beau témoin encore de foi, de charité que nous donne l'Église. Alors, nous savons bien sûr qu'aujourd'hui, le Liban souffre beaucoup. Alors, n'hésitons pas, n'hésitez pas, vous, chers auditeurs aussi, à prier, ce père Nicolas Cluyters a demandé son intercession pour amener la paix dans ce pays meurtri. Alors, est-ce que j'ai une petite minute? On termine par la prière aux martyrs? Voilà, alors tous ensemble, si vous voulez, nous pouvons terminer cette émission avec la prière aux martyrs. Seigneur, partout dans le monde, les chrétiens sont menacés, persécutés. Signe de contradiction en raison de leur foi, ils meurent pour toi, qui es l'amour. Nous te prions pour eux. Accueille-les auprès de toi. Nous te confions aussi leurs persécuteurs. Que le sacrifice de tes martyrs, Seigneur, produise beaucoup de conversions dans ton Église et dans le monde. Vierge Marie, reine des martyrs, invoque pour nous l'esprit de force, qu'il éloigne de nous la peur, la honte, la lâcheté et la tiédeur, qu'il renouvelle notre foi et notre amour, afin que nous puissions témoigner en toutes circonstances et jusqu'au bout que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Alléluia.
Merci Bernadette.
Merci à tous et à toutes. Bon après-midi.
Merci, à bientôt.